Ousmane Doumbouya, des prisons guinéennes au rap français.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est d'abord un homme, c'est d'abord Ousmane, c'est d'abord un homme né à Conakry en Guinée qui souhaitait devenir cinéaste et qui s'est retrouvé dans un très mauvais film, derrière les barreaux, sur les routes de l'exil, puis sur une embarcation de fortune et aujourd'hui avec un dossier de demandeur d'asile. C'est d'abord Ousmane Doumbouya, 37 ans, qui a suffisamment vécu, suffisamment à dire pour ne pas être perçu comme un migrant, c'est-à-dire comme un sans-visage. Ancien étudiant en mathématiques et en informatique, il a ce quelque chose de l'homme conscient qui a voulu en découdre avec le gouvernement d'Alpha Condé d'abord, en se frottant au rap, puis au documentaire sur les prisons en Guinée. La suite, c'est ce mauvais film qui fait d'Ousmane Doumbouya une plume urgente du rap français, ça c'est une question en sol majeur, et qui a rejoint l'atelier des artistes en exil devenu le lieu de ralliement de 200 créateurs réfugiés ou demandeurs d'asile.
Baiser jusqu'à ce qu'en avoir ras-le-bol de sa vie, détester sa ville, une bouteille de Jacques Daniel, boire jusqu'à vomir, traverser les typhons de tes frères. Ton frère s'est pointé une arme évitant tous les diables. Dis-leur que je n'ai pas connu la rue, mais j'ai appris beaucoup sur la rue, de telle sorte que je peux écrire sur la rue, comme si je l'avais vraiment vécu. La plupart de mes potes qui m'ont parlé de leur vie de rue, 1% se sont assortis. Je fuis la patrie, j'étais en zombie. À présent, je vis à Paris, artiste en exil. Je n'ai pas choisi, sinon ça aurait été facile. Je suis si loin que j'ai compris, maman n'est pas ici. Combien m'ont dit, t'es pas chez toi ici. Merci, des millions de gens me l'ont déjà dit.
Bonjour Ousmane Doumbouya.
Bonjour madame.
Yasmine.
Yasmine.
Pour les intimes, dans Sol majeur. Dans quelles circonstances vous avez écrit ce texte intitulé Cinq doigts?
Déjà, j'ai réfléchi du fait que les gens ils sont inégaux et qu'il y a des jugements. Par exemple, l'immigration, j'ai commencé par l'immigration. J'ai vu que nous sommes là, des immigrés, des exilés, mais on n'a pas les mêmes histoires. Ça, c'est une inégalité pour moi. Des gens qui ont fui leur ville, qui ont détesté la vie, qui se sont mis dans l'alcool, des trucs comme ça. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire. Et puis, c'était aussi par la complicité d'une femme qui s'appelle Elodie, qui m'a beaucoup aidé à écrire le texte.
Mmh, ah, voilà. Les femmes, ah, l'amour.
Ah, ben ouais.
Donc, c'est du 100% vécu, vous diriez?
Oui, c'est du 100% vécu.
Alors, puisque vous rappez dans plusieurs langues, on va le découvrir tout à l'heure, vous rappez en malinké, en anglais, en français.
Ouais.
Forcément, vous avez quelques étoiles dans la tête, made in USA, made in Paname aussi.
Bien sûr que oui.
Puisque vous kiffez Youssoupha, par exemple, lui qui est né à Kinshasa il y a 39 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans son rap?
C'est ses paroles, c'est sincère et puis c'est le reflet de l'Afrique. Il parle beaucoup de l'Afrique, moi j'adore ça. Il n'a pas oublié ses racines. Et en plus, il parle aussi de son vécu en France ici. Parce que c'est un artiste qui a vécu ici, mais qui a été déporté. Donc,
Vous vous sentez proche?
Ouais, je me sens proche de lui.
Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Cérine Touba, je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants, mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi.
F comme fils de.
Une minute de Polaroid avec le fils du Congo, Youssoupha. Pour une seule question en fait, vous êtes le fils de qui, vous, Ousmane Doumbouya?
Je suis le fils d'un cordonnier, du nom de Mohamed Moumine Doumbouya.
Oui.
Mon papa, il était aurifère. Et il a connu la prison en Guinée. Il a été arrêté pour vente d'or illégalement. Du coup, c'est là qu'est venue mon inspiration de faire le film documentaire qui tourne autour des prisons. Parce que j'avais 12 ans à l'époque où j'étais parti lui rendre visite en prison. Du coup, j'ai vu dans l'état dans lequel il détenait les gens, c'était inhumain. À la sortie, j'ai dit à ma mère, écoute, c'est des trucs à dénoncer. Il me dit, tais-toi, tu ne te mêles pas de ça.
Vous savez ce que faisait la génération de vos grands-parents?
C'est des cordonniers, des
D'où
chasseurs.
Ils venaient? Chasseurs?
Ouais, c'est des chasseurs cordonniers.
Vous aimez bien ce métier de chasseur quand vous étiez petit, ça
bien
vous fascinait,
sûr, j'aime,
ça, hein?
Ouais, ça me fascinait, j'aimais partir regarder, mais mon père, il ne m'a pas donné trop l'occasion. J'ai été qu'une fois.
Et alors?
Et j'ai apprécié, je voulais partir une seconde fois, il m'a dit non, c'est pas ton truc, tu fais tes études, tu laisses tomber.
C'était pas votre truc, la chasse?
Ouais, parce qu'il voulait que j'étudie.
Mais vous avez...
Il voulait que j'étudie.
Une vision noble hein, de ce métier de chasseur et de cordonnier.
C'est, bien sûr que
c'est
oui.
C'est quelque chose de noble.
Bien sûr que oui. D'ailleurs, on a été des personnes qui aidaient les rois à porter des saucisses. On confectionnait les saucisses des rois. Et on partait chercher des peaux de lion qu'on offrait aux rois. Ou les faire des tabourets en cuir de lion, des trucs comme ça.
Alors, votre maison de Conakry, je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemblait, mais apparemment, quand on était à l'intérieur de cette maison, voilà ce qu'on entendait. Ousmane, c'est comme si on était un peu dans le ventre de votre maison, là.
Ah oui, ça m'a rappelé loin, je suis parti très loin. Le fait même d'écouter la chanson, là, ça me rappelle directement mon père. C'est Surikan Yakuyati, qui était son chanteur préféré.
Oui.
Il a une voix d'or. Mm-hmm. Et mon père, il nous réveillait chaque matin par la musique de Surikan Yakuyati. Il le mettait chaque matin.
Et chaque matin, vous entendiez le train en même temps?
Chaque 6h30, le train, il passe pour déposer la bauxite au port.
Parce que vous étiez tout près d'une gare?
Non, c'est pas parce que je suis près d'une gare, mais les rails, ils sont près de chez moi. Il y a le marché à côté, il y a les commissariats, les cymbales, les scouts, et il y a aussi les toits métalliques qui sont là si c'est l'hivernage, quand ça pleut. Et il y a une permanence à côté où le ballet africain, il venait pour les répétitions. C'était très tôt le matin à 7h. Tu entendais les tam-tam.
Donc pour le silence et la prière intérieure, c'était pas facile?
Ah non, ça marchait pas dans les quartiers là.
Vous êtes né dans les années 80, en 82?
En 82, ouais.
Exactement, dans une famille polyglotte.
Ouais, on parle malinké, on n'a pas une langue spécifique dans notre maison. On parle malinké, on parle le poulard, on parle le soussou. Mais ce qui nous domine trop, c'est le soussou, parce qu'on a grandi dans un quartier soussou. Mais nous, la famille, elle est malinké. Par exemple, ma mère, sa maman, elle est soussou. Mon père, sa maman, elle est pul. Ça fait qu'on a ce métissage.
Qui se vit bien à Conakry? C'est facile d'être dans ce métissage?
Actuellement, c'est compliqué, mais avant, c'était pas comme ça. Mais maintenant, quand tu demandes la main à une femme pure, tu es malinké. Il y a toute une méfiance des deux familles.
Alors, votre père, il a connu la Guinée de Sékou Touré.
Ouais.
Vous, plutôt celle de l'ancien Akonté, autoritaire.
Oui.
Puis celle de Dadis Camara, un peu éphémère
oui.
Comme ça, et celle d'Alpha Condé, qui en est à son deuxième mandat. Vous nous le racontiez un tout petit peu au début, ce qui vous a donné envie de prendre la caméra dans cette Guinée des années 2000, c'est le fait que votre père se retrouve
en prison.
En prison.
C'est comme si c'est moi qui ai été en prison, parce que lorsque je suis parti en prison, je l'ai vu, j'étais effondré. C'était insalubre la prison, c'était pas respirable. Tu restes là-bas des semaines, tu es gonflé. Il y a des maladies partout. La plupart des gens en Guinée, quand ils rentrent en prison, ils sortent. Ce n'est pas le fait qu'ils ont été emprisonnés qui les tue, c'est la maladie qui ramasse dans les prisons, parce que c'est vraiment très sale.
Ça, bon. Et évidemment, il n'y a pas de justice rendue.
Non, il
n'y
a pas de justice. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Quand on vous enferme, c'est quand ils veulent vous libérer qu'on vous libère, hein, ou bien que vous payez de l'argent. Même si la faute elle est grave, s'il y a l'argent, les gens ils sortent facilement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour mon père.
Donc l'idée du documentaire, elle démarre à partir de ça. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous avez des autorisations pour filmer dans les prisons?
Non, je n'ai pas eu d'autorisation, mais j'ai passé par des gardes pénitentiaires.
C'est-à-dire vous les avez achetés?
Ouais, ben ouais, j'ai changé du carburant avec eux. Parce qu'à l'époque, je travaillais à Total. Ouais, les services de carburant comme informaticien, j'avais l'atout d'avoir du carburant chaque semaine. Donc j'en profitais pour emmagasiner. Chaque fin de mois, je lui ai fait une proposition. J'ai dit, ben, écoutez, j'ai des fuites de carburant. Je vous donne ça, vous me laissez 30 minutes ou une heure de film. Ils me disent, d'accord, mais tu ne dénonces pas au cas où ça tourne au vinaigre.
Et alors, est-ce que ça tournait vinaigre ou pas?
Ouais, ça tournait au vinaigre, mais pas dans les lieux où je faisais le filmage. J'étais sorti lors d'une manifestation.
Oui, parce qu'on est dans un climat, à ce moment-là, très tendu pour la Guinée, qui vit des mouvements de protestation. Le pays espère une transition démocratique.
Exactement.
Avec le capitaine Dadis Camara après la mort de Lansana Conté. Ça veut dire que vous, Ousmane Doumbouya, vous étiez au cœur de ces manifestations?
Exactement. J'ai jamais manqué une manifestation. Déjà, je suis artiste. Le quartier dans lequel je suis, les gens me connaissent beaucoup pour les activités politiques et culturelles. Du coup, quand il y a une manifestation, ils me contactent.
Et on vous contacte, vous venez pour manifester tout en filmant?
Non, avant la manifestation, d'abord, ils me demandent mon avis. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse la manifestation avec des banderoles?
Vous travaillez la communication?
Voilà, la communication,
la manifestation.
Tout ça. Mais à chaque fois qu'on sortait, moi, je partais avec ma caméra pour filmer.
Et ces images sont devenues quoi?
Mais j'étais appréhendé avec mon appareil. C'est pourquoi je me suis retrouvé en prison. Ils m'ont amené, ils m'ont interviewé, ils ont vu des vidéos dedans. Ce n'était pas des vidéos de prison, mais des prisonniers que j'interviewais. Ils m'ont demandé comment j'ai fait. Je les ai dit, écoutez, je ne peux pas vous expliquer, seulement que j'ai passé par des connaissances. Ils m'ont obligé de donner les noms des gens.
Obligé, ça veut dire qu'ils vous ont torturé?
Ouais, c'est ça. Ils m'ont torturé pour que je donne des noms. Comme je refusais, ils m'ont amené au camp militaire à Alpha Yaya. Une fois au camp, ils sont partis chez moi. Ma mère les a laissés rentrer dans ma chambre. Ils ont pris mon PC. Ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont trouvé assez d'images. Ça les a mis en colère. Ils ont commencé à me bombarder par des questions. Ouais, tu fais quoi? Tu travailles pour les médias internationaux? Je leur ai dit non, je travaille pour personne. Moi, j'ai fait ça juste parce que j'ai envie de dénoncer. Ils m'ont dit, ben, ça serait la dernière fois. Ils insistaient à ce que je donne des noms. Mais comme je ne voulais pas, après, ils m'ont cramé. Hein. Ils m'ont mis de l'eau chaude. Hein. Il y en a des cicatrices sur la tête, sous la main.
Oui, vous êtes brûlé au troisième degré?
Ouais, au troisième degré, ouais. Je suis tombé au coma et c'est à cause de ça que j'ai quitté le pays pour partir me traiter au Maroc. Oh mère, mère des mères, toi qui gardes un fœtus pendant 9, toi qui nourris à travers ta chair, même étant chèque, tu donnes du lait, toi qui es présente n'importe quelle heure, toi qui n'as ni jour ni nuit pour un bon sommeil. Oh mère, sans toi, ni époque, ni ère. Sans toi, ni vie, ni lumière. Sans toi, ni moi, ni mes frères. T'es la déesse que je vénère. Ô mère, que je t'aime, mère. Pardonne-moi d'être parti, mais un jour, je reviendrai. Même étant sec, tu donnes du lait.
E comme Eldorado.
Puisque les rives occidentales, voyant affluer ce qu'on appelle les migrants, ne réalisent pas toujours ce que traversent ces personnes obligées de fuir un pays en guerre ou une situation de vie dangereuse, j'aimerais bien que vous nous racontiez pour en sol majeur, Ousmane, cette traversée qui vous a mené de la Guinée jusqu'en France.
Proprement dit, je n'ai pas quitté la Guinée pour traverser la mer. Après 4 ans, 5 ans au Maroc, mon état, il n'était pas comme je voulais. Les gens, ils m'encourageaient. Écoute, tu peux partir en Europe, tu peux trouver des médecins, peut-être ils peuvent mieux te soigner.
Donc vous soigner, c'était le premier but, puisque vous sortez de prison.
Exactement.
Dans un état...
Ouais, très critique. Je perdais de mémoire. Je sortais parfois sans savoir ce que je faisais.
Donc vous n'avez pas vraiment de souvenir de votre traversée? Vous n'avez pas fait le parcours classique des passeurs?
Non, je n'ai pas fait le parcours classique des passeurs.
Et comment vous vous retrouvez au Maroc?
Après 8 mois de traitement en Guinée, parce que j'étais traité clandestinement. Et c'est un médecin qui venait me voir secrètement pour soigner mes plaies, tout ça. Et 8 mois après, ma mère, elle a dit, si ça va pas, on essaie de t'amener au Sénégal ou au Maroc. C'est comme ça, ils ont choisi le Maroc. Je suis venu dans un hôpital à Rabat. Du coup, j'ai commencé mon traitement là-bas. J'ai commencé à en avoir marre. Les gens, ils m'interdisaient de regarder le miroir.
C'est-à-dire ?
Ouais, à cause de mes cicatrices sur la tête. Moi, j'en avais marre de tout ça. Un beau jour, j'ai pris le vol, sans dire à personne.
Vous aviez des sous quand même ?
Ouais, j'avais des sous. Je travaillais très bien en Guinée. Je travaillais à Total. J'avais un poste clé.
Donc, vous aviez une petite cagnotte ?
Ouais. Et je suis parti en Tunisie pour m'éloigner des gens. Mais tout ça, je ne me rendais pas très bien en compte. Je ne savais pas réellement ce que je faisais. Et en Tunisie, je me suis mis dans l'alcool, dans la drogue. Mais un beau jour, les gens ils m'ont conseillé en Tunisie, l'hôtel dans lequel je logeais. La propriétaire, c'était une dame. Elle m'a dit, écoute, tu vas abîmer ta vie comme ça. Tu rentres ici sous tous les jours. Tu te drogues, tout ça. Nous, on ne te connaît pas, mais tu peux arrêter ça. Moi, je sais que tu es issu d'une bonne famille. Elle m'a fait des éloges de telle sorte que j'ai réfléchi. Un beau matin, je me suis acheté un autre billet d'avion. Je suis rentré au Maroc et j'ai recommencé vraiment mon traitement. Ça a commencé à aller parce que j'ai commencé à écrire beaucoup. J'étais trop accentué avec l'écriture.
Et vous découvrez comment ce désir d'écriture ?
Je ne sais pas comment vous décrire parce que c'était le seul moyen pour moi de me parler moi-même, d'écrire mon histoire. Parce que je ne me souvenais plus de rien, de tout ce que j'ai traversé en prison. Je ne me souvenais pas. C'est quand je fais des cauchemars, le matin, quand je me réveille, je me mets à t'écrire. Et après, quand je fais un autre rêve, je compare mes écrits et mes rêves pour voir est-ce que je peux restaurer
la mémoire.
La mémoire, tout ça.
Donc l'écriture, c'était presque comme une cure.
Exactement. Donc je continue comme ça. Un beau jour, les gens ils m'ont dit, écoute, tu peux trouver une bonne santé en Europe. Et puis là-bas, c'est pas comme ici, ils peuvent te soutenir, tout ça. Un beau matin, je suis parti, j'ai demandé au passeur, il m'a expliqué ce qu'il faut faire. Le mec, il s'appelait Aziz, il m'a dit, tu me donnes 2000 euros. Il m'a rassuré, c'est là, mais lui, il a vu mon état, il m'a dit, toi, tu peux pas rester dans la brousse, on va te trouver un local, parce que j'étais dégradé. Hein.
En tout cas, vous êtes en belle santé. Je vous ai en face
j'ai
de moi aujourd'hui.
En France, je ne peux pas vous décrire.
Vous revenez de loin, donc vous êtes un miraculé, mais vous êtes un beau jeune homme de 37 ans. On est encore un jeune homme à 37 ans aujourd'hui. Donc, l'écriture, vous nous l'avez dit, ça a commencé au Maroc, mais pour un sol majeur, l'écriture rappée, c'est maintenant.
N'aurait pas été le grand D, le grand R, le grand S. Ma haine serait de la tête aux orteils. Ouvre bien tes oreilles. Je sais que tu penses rien qu'aux oseilles. Écoute bien, c'est pas Lucifer. Seul le fer peut couper le fer. Seul la baie peut faire tourner ma tête. Seul une pite de playboy peut calmer ma douleur. Rien ne me fait plus peur. Surtout quand je pense à ta femelle. C'est le seul moment que je pleure. Type mystique comme une moustique. Je te pique pas pour te dead. Juste te rappeler qu'ils existent.
Ousmane Doumbouya pour en sol majeur. Une première question en vous écoutant. Pourquoi cette métaphore des 5 doigts ?
Moi, à chaque fois que je soulève mes 5 doigts, je vois qu'ils sont inégaux. Alors, partout où je passe, je sais que je ne serai pas inaperçu. Mais les gens me jugeront par peut-être ma couleur. C'est de la discrimination.
Il est joli ce vers. Je suis type mystique comme un moustique.
Ouais. Je ne te pique pas pour te dead, pour te tuer, mais juste te rappeler qu'elles existent.
Et plus loin, vous dites, depuis l'enfance, je déteste la dépendance.
La dépendance.
Cependant, quand j'y pense, en 58...
Ensuite, à l'indépendance, j'ai l'impression d'être une offrande.
Alors ça, c'est une phrase quand même terrible.
Ben ouais.
Les historiens, ils pourraient se pencher dessus, je dis, hein, les historiens guinéens.
Ah ouais, peut-être. Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette phrase ?
Écoutez, depuis l'indépendance, c'est la même raclée politique. Hein. Ça n'a pas changé. Nous, on avait cru qu'avec l'arrivée d'Alpha Condé, que tout allait changer, hein, parce que lui, il a étudié ici. Quand même, si tu ne peux pas faire comme la France, quand même, tu peux apporter une copie. Mais On était déçus de lui après ces deux mandats-là. Et surtout encore qu'il veut se présenter pour une troisième fois, là, c'est le chaos. Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé dans son cuisine.
Ah
j'ai
oui?
travaillé dans son cuisine. J'ai travaillé là-bas.
Pour faire la com, de nouveau la
Non, c'était pour faire le cumul statistique des résultats.
Et alors?
Comme c'était informatisé, il cherchait des gens, j'ai postulé mon prix. Ses paroles étaient convaincantes au début, mais après, et les infrastructures qu'on attendait de lui ne sont pas là. Yo 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 beina bringa fa for your mobile via oo adi namula makoro bima ba narega bima ba ya mi futi no harda ladde wapi no darika ladde no sundu ndira mi do bolcha hore ganyo loto longal hida wundi eko se ha wat go rapa no futi kono sono tafi pachita sengo adu bitko falla SD singin hidden city acho misagi na
Ça, j'achète tout de suite. Hein.
Ah ouais.
C'est magnifique. C'est en malinqué.
Oh non, j'ai chanté là un peu en malinqué. J'ai mélangé un
sous-son. Ah, vous mélangez. Ouais. Est-ce que le plaisir, il est le même pour vous lorsque vous rappez en français, en malinqué ou même en anglais?
Le plaisir pour moi, c'est le même. Parce que pour moi, c'est de la musique. Hein. Moi, l'essentiel, c'est le texte.
Alors, qu'est-ce qu'il racontait ce texte à l'instant?
Là, j'ai parlé du troisième mandat. Je parlais de moi, je parlais aussi du vécu des gens. Par exemple, j'ai dit, j'ai commencé lorsque toi, tu n'étais pas encore né. C'est-à-dire, je parle du rap. Parce que j'ai commencé à imiter vraiment les gens tout petits. Et c'est à travers ça, les gens ils m'ont encouragé. Écoute, tu peux faire la musique, toi, tu peux faire du rap.
Hein. Et vous imitiez qui, petit?
Au début, c'était MC Solar, parce que je l'écoutais beaucoup. J'ai gagné ces trucs-là à travers un cousin qui est né ici, qui m'a envoyé des musiques de rap français souvent. Donc je commençais à imiter MC Solar et d'autres artistes de chez nous. Et des Américains à l'époque, je ne parlais pas l'anglais, mais j'imitais. Mais quand j'imite, tu as l'impression que je parle vraiment de l'anglais, mais ce n'était pas de l'anglais. Hein.
Et vous avez monté vous-même votre groupe qui s'appelait ?
Le gouvernement blindé, c'était à la fac. Ouais, en 2005, l'idée était venue d'un ami qui s'appelait Abdallah. D'ailleurs, c'était lui le président du gouvernement blindé. Et après lui, c'était moi.
Donc c'était un groupe évidemment contestataire qui dénonçait les dérives du régime.
On ne faisait pas de la musique dansante hein, où les gens ils pouvaient venir danser. Hein. Tout ce qu'on disait, c'était trop agressif. Hein. Et puis il y avait beaucoup de trucs qui sensibilisaient les gens. Parce que lorsqu'on était parti à la fac, moi la première fois que j'ai quitté la capitale, c'est lorsque je suis parti à l'université. Et c'était à 400 km de la capitale. On a constaté que la population locale elle n'est pas instruite. Et on a constaté à travers l'hôpital qu'il y a beaucoup de citoyens, des gens qui ont le VIH. Pour nous, c'est incroyable. On sait que la meilleure éducation, ça se trouve au village. Comment que les gens ils ont du VIH ici? Du coup, lorsqu'on a fait le groupe, j'ai dit, écoutez, on ne va pas faire seulement de la musique, on peut sensibiliser les gens, même partir dans les villages les plus reculés, parce que c'est des tabous, les sexes chez nous. Du coup, lorsqu'on a fait le groupe, on a commencé à faire des concerts dans des petits villages. Parfois, ce n'était pas des concerts, c'était juste des journées de sensibilisation, comment utiliser le préservatif, comment se protéger, des trucs comme ça.
Alors, c'était joli de vous entendre en malinqué, en poulard, en soussou et en français, d'autant que en anglais, on ne vous a pas entendu encore.
Ouais.
Juste un tout petit bout en anglais pour voir.
I must wake up early morning cause I'm away is so far. I'm a gang then, I never give a damn, but I know behind me. Many enemies shake my skin since all eyes on me. Keep call X, get rid of my best, you watch me cause I'm on a bitch. As they get sharp, that is my bodyguard, music is my life.
On vous arrête plus hein, après. Vous êtes souriant en tout cas depuis que vous écrivez, Ousmane Doumbouya. Est-ce que vous diriez que, parce qu'on sent beaucoup de colère dans ce que vous écrivez, beaucoup de dénonciations, est-ce que vous pensez que vous auriez pu mal tourner si vous n'aviez pas écrit?
Si j'avais pas pris la plume, j'allais sombrer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit souvent à mon médecin. C'est le seul côté qui m'épaule beaucoup après mes médicaments.
Il y a ça, puis il y a l'amour que vous avez rencontré au Maroc.
Oui, j'ai rencontré une fille parce que au Maroc, c'est pas évident que tu sortes avec les femmes arabes. Il y a trop le racisme, je vous le dis. Mais elle s'est sacrifiée. Il y avait ses parents qui étaient opposés à notre union, mais elle s'en fichait, quoi. Elle a dit clairement à sa maman, si je sors pas avec lui, je sortirai avec personne. Ça a été compliqué au début, mais après, la famille, elle a cédé. Hein.
Et alors, Roméo et Juliette, ils sont où aujourd'hui?
On s'écrit souvent, hein, on s'écrit souvent.
Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui, Ousmane, comme un rappeur français?
Je suis francophone, je dirais oui. Je suis rappeur français. Avant, j'écrivais pas trop mon rap en français. J'écrivais en soussou, poulard, surtout, un peu en anglais. Mais depuis que j'ai quitté la patrie, j'écris qu'en français.
Ewama Wanan Master, donc ça, c'est pas du français.
Ouais.
On va vous écouter donc dans ce flow itinérant, yeah. Ousmane Doumbouya. Qu'est-ce qui raconte ce texte-là?
Ça raconte des personnes qui se mêlent de problèmes de couple. Par exemple, vous avez un problème dans votre couple, vous venez vous expliquer ça aux gens, au lieu qu'ils vous aident à ce que vous vous réconciliez avec votre partenaire, ils sabotent, ils cherchent à ce que vous vous éloignez. Donc ça parle de ça. Et ouais, maman, la fois, t'en finis.
De ma taille, tu souhaites ça à l'aube comme un esclave. Entièrement payé, je suis tellement payé. Bah oui, maintenant je suis grave et défoncé dans mon bendo. Ne me regarde pas, je suis pas fou. Mon calasse est chargé, tu t'approches, je vais te ravaler. Le jour de la paix, je suis pas un boy qui finit par terre. Ah! Wapen holy chede jagan sikkan da jodi ka hore ko de milan holy joma milan shansha flow on ka beat bisik uyaru yes o minko esti tati tati jeti sono me tu ma be ko hala ke kwe fus da la tala milan de gra wa bol wata daro yes o ami so per te wa jams bon minka mi kulli jole milan da sa lamborghini
Ça groove façon sur RFI pour en sol majeur avec Ousmane Doumbouya, rappeur guinéen et français, en tout cas francophone, qui trimballe sa colère de demandeur d'asile. Monsieur le Président, vous êtes bien sur RFI.
I do believe that the German society indeed.
Je crois que la société allemande
faced with a lot of lucidity. And courage.
Fait face avec lucidité et courage
this refugee crisis.
À cette crise des réfugiés.
Why?
Pourquoi?
Because it was just about our common values.
Parce qu'il est juste question de nos valeurs communes.
Because when you speak about refugees,
parce que quand vous voulez parler de réfugiés,
you speak about people leaving their countries to protect
vous parlez de personnes qui ont quitté leur pays pour protéger leur famille et se protéger eux-mêmes.
Que le dire tous les donneurs de leçons? Allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde, aujourd'hui. Mais regardez la société française et ses fractures. Regardez ce que nous faisons aussi. Et nous n'avons pas à en rougir. Et je peux le défendre point à point et détail par détail devant vous.
Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que le sujet des migrations n'est pas derrière nous. Il faut se garder des faux bons sentiments.
Douce France.
Toutes les archives aujourd'hui. Ousmane, vous avez noté vous aussi des discours très très différents chez Macron candidat et Macron président, mais en même temps j'ai envie de vous dire, c'est banalement le jeu politique.
Ouais.
Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Emmanuel Macron si vous étiez en face de lui sur votre quotidien aujourd'hui de demandeur d'asile?
Je commencerai par dire que de chercher à comprendre les gens qui sont exilés. Si je sais, il y a des gens qui viennent ici pour des problèmes économiques, qui ça va pas, la pauvreté, tout ça, je comprends ça. Mais il y a des gens qui quittent chez eux, franchement, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils croient à la démocratie européenne, à la protection de la France. Par exemple, moi, je pouvais rester en Espagne, mais j'ai réfléchi beaucoup, j'ai dit, si je reste en Espagne, il me faut repartir à zéro. C'est-à-dire quoi, la langue d'ailleurs, c'est compliqué pour moi, mais la France, j'ai un atout. J'étudie la langue française, je peux facilement m'intégrer et suivre mes démarches sans être épaulé. Il y a des gens qui sont vraiment persécutés.
J'ai regardé quand même, il y a eu un sondage en 2018 qui révélait ce chiffre, 54% des Français n'est pas favorable à l'accueil des migrants, ça laisse quand même plus de 40% qui est favorable.
Oui.
Vous, rappeur, né en Guinée, guinéen, dites-nous pourquoi ça vous semble logique que la France devienne pour vous une terre d'accueil, ou alors pour le dire autrement, puisque vous venez déjà d'évoquer la question de la langue et du passé commun entre la Guinée et la France, qu'est-ce que vous qui venez de ce pays, vous pouvez apporter à la France?
D'ailleurs, j'ai commencé beaucoup à apporter à la France l'essence culturelle. Il y a un côté très positif de la migration. Si nous prenons l'exemple sur les États-Unis, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale.
Vous pensez que c'est lié à ça?
Oui, je pense bien. Avant-hier, j'ai lu un journal où les Américains se mêlent de la politique migratoire de la France, de l'Europe en général. Moi, je trouve que c'est illogique. Les États-Unis, ils vivent de l'immigration. La main-d'œuvre, c'est quoi? C'est l'immigration. Et s'ils empêchent aujourd'hui les Européens à ce qu'ils accueillent les migrants, moi, je dirais que c'est par simple jalousie d'atteindre un sommet, parce que la migration a un côté vraiment très positif. Mmh. Il y a l'intersection culturelle et puis ça combat même le racisme. Moi, j'ai jamais vécu avec un Français. C'est-à-dire partager la nourriture française. Malgré que j'ai commencé mes études dans une école appelée Syria, c'est conçu par la France et c'est des sœurs qui sont dedans.
Donc en Guinée?
En Guinée, ouais. Au début, ma mère s'y opposait catégoriquement parce qu'elle craignait que je change de religion, parce qu'il n'y avait rien là-bas que des trucs de religion. Mais ils enseignaient aux enfants la lecture, savoir compter, écrire, des trucs comme ça.
Mais aujourd'hui, vous ne rêvez pas pour vous d'un destin de travailleur, main-d'œuvre, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir comme place, vous, en France?
En France... Je dirais, si je veux avoir une place, ça serait à travers la culture.
Et vous pensez que la manière dont vous écrivez ce rap, avec ce côté polyglotte qui est le vôtre, vous pensez que ça peut nourrir le rap hexagonal?
Ça s'améliore au fur et à mesure qu'il reste sur un territoire. Moi, je n'ai pas vécu la même réalité que les rappeurs d'ici. Donc,
Pour l'instant, vous avez envie surtout d'écrire sur votre vécu en Guinée?
Actuellement, ouais. Mmh. Et quand j'aurai peut-être fait un album qui est lié beaucoup à moi, et après je peux changer de flou et être au même diapason que les rappeurs d'ici.
Comment dire l'exil? Et ben justement, en l'écrivant et en intégrant l'atelier des artistes. Alors je précise que cet atelier des artistes qui est installé à Paris en ce moment dans le 18e arrondissement est en recherche de locaux, donc à bon entendeur. Donc vous avez écrit un texte dans le cadre de Dire l'exil. J'aimerais bien qu'on en partage un petit bout en sol majeur avec le livre perdu, Ousmane Doumbouya.
C'était un petit livre de couleur bleue. La couverture était douce, usée par mes doigts et mon stylo. Il me servait d'oreiller. Ses pages blanches à petits carreaux, couvertes de mon écriture un peu penchée qui regarde en arrière. Il sentait l'humidité et la moisissure. J'aimais cette odeur, celle de mon petit livre bleu. J'ai écrit dedans le premier regard hostile. Toi dans le bus qui s'était bouché le nez. J'ai écrit toi Mjid et toi Saber qui m'a accueilli 3 ans dans ta maison. J'ai écrit surtout dans ces livres perdus. J'aimerais tant pouvoir le retrouver.
Ousmane Doumbouya et son petit carnet bleu, alors... Vous écrivez en français, et c'est quelque chose qui vous guérit, qui vous fait respirer, qui vous fait exister aujourd'hui. Et en même temps, toujours ces questions assez en sol majeur. Être adopté par un pays comme la France, ça veut dire sans doute aussi adopter certaines de ses valeurs. Et vous qui êtes un peu parisien aujourd'hui, je me demandais ce que vous pensiez de ce qui se passe en Guinée, parce que vous avez toujours un œil, hein, évidemment, sur la Guinée. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau code civil en Guinée qui vient d'être adopté et qui légalise la polygamie?
Moi, je suis d'accord. Moi, mon père, il était polygame, mais je sais, il est décédé tôt, c'est dû à tout cela, à tout le problème de ces deux femmes.
Pour la polygamie?
Non, je ne suis pas pour la polygamie. Pas du tout.
J'ai compris le contraire, vous voyez?
Ouais. Je ne suis pas pour la polygamie. Parce que moi, je suis d'une famille polygame, je sais ce que c'est.
Et alors, c'est quoi le problème de la polygamie?
La déchirure familiale. Il y a une déchirure totale. Il y a une déchirure, hein. Il n'y a pas d'entente. Hein.
Est-ce que vous auriez envie d'écrire sur ce thème?
Bien sûr que oui, j'ai déjà commencé avec un ami. Parce qu'on a appris la nouvelle. Et lui, il est pour la polygamie, moi, je ne suis pas pour. Donc,
et donc, vous faites entendre les deux sons de cloche?
Voilà.
Alors pour les 60 ans d'indépendance de la Guinée, l'émission internationale a installé ses micros à Conakry. Peut-être que vous n'avez pas raté cette émission. Donc l'émission qui a interviewé le président Alpha Condé en personne, avec cette question au cours de l'entretien, une question de RFI qui a d'ailleurs bien agacé le président guinéen. La question était la suivante: est-ce qu'à l'horizon 2020, monsieur le président, vous pensez obtenir un bilan positif? Réponse.
Le peuple de Guinée qui m'a élu, je suis là devant le peuple de Guinée, je ne suis pas devant RFI. Moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui dit ça dans mon bilan, ce n'est pas RFI.
Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous, vous êtes conscient qu'il y a du
non,
public
non,
qui
non,
écoute.
Non, 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 80% de la population ne comprend pas français. Donc les paysans ne comprennent pas français, ça va servir à quoi ce que je veux dire. Moi, je suis encore là pour mon peuple, je n'ai aucun complexe. Et je m'adresse à mon peuple dans sa langue.
Mais puisque vous parlez beaucoup de l'histoire, de la nécessité de faire connaître l'histoire de votre pays à votre jeunesse, est-ce que, j'entends bien que vous voulez défendre votre bilan, mais est-ce que...
Je ne parle pas de mon bilan.
Non, mais parce que vous parlez depuis votre arrivée aussi.
Non, parce que vous avez dit que la Guinée n'a
d'accord,
pas décollé.
J'ai compris
et
que ça...
Et qui est contraire à la vérité.
Monsieur le Président, mais est-ce que vous diriez quand même que les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui sont le fait de l'histoire de ce pays et de sa période d'avant 58?
La colonisation, la colonisation. C'est dit que nous avons notre propre responsabilité aussi. Et je l'ai dit publiquement, en tant que président africain, je l'ai dit aux chefs d'État africains. Nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les quatre vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas.
Non, mais si, vous avez dit aussi...
Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées.
Non.
Quand vous dites que la Guinée n'a pas...
Mais
madame, je suis choqué.
Alors, on a bien entendu votre colère, Ousmane Doumbouya, tout à l'heure, à l'endroit du troisième mandat visé par Alpha Condé. Ouais. Mais là, sa réponse, pour un seul majeur, vis-à-vis d'un média comme RFI, vis-à-vis de la France, est-ce que vous aussi, vous êtes choqué?
Il m'a tué, le mec. La première fois, j'ai regardé l'image, j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est parce que c'est ma soeur qui m'avait envoyé la vidéo. Elle dit, écoute, ton président, je l'ai écouté, j'étais effondré, hein. Le mec, avant qu'il vienne au pouvoir, il nous a rassuré que lui, il est là pour la démocratie. Et c'est quelqu'un qui a vécu 40 ans en France ici.
Donc, sur cette question-là, on a bien compris votre position. Mais moi, j'entends aussi sur les réseaux sociaux, je lis, une fierté à voir un chef d'État africain ne plus être dans une relation complexée face aux médias occidentaux. Est-ce que ça, vous le relevez ou pas?
Non, je ne le relève pas. Je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il est complexé ou pas, mais c'est parce qu'il veut défendre son trône, hein. C'est tout. Hein. C'est pourquoi il parle sur ses tons. Et vu l'image qu'il a de l'Union africaine, il est le président aujourd'hui de l'Union africaine. Mm-hmm. Donc il est obligé de parler, de lancer des fleurs sur lui. Mais c'est pas ce qu'il fait pour le pays quand même. Hein.
C'est-à-dire qu'il fait l'économie de la vraie réponse sur son bilan.
Sur son bilan. Moi personnellement, c'est ce que j'attendais de lui. C'était à ce qu'il fasse un exemple. C'est-à-dire de ne pas s'approcher du fait du troisième mandat, de ne jamais parler de ça. Et là, c'était un bon exemple, mais tel n'est pas le cas. Mmh. Donc pour moi, tout ce qu'il va raconter après, c'est des bobards.
Est-ce que vous vous rêvez un jour en Guinée. Est-ce que vous rêvez d'y retourner en Guinée ou est-ce que vous avez mis une croix définitive sur ce pays?
Je le veux même maintenant. Ça fait 9 ans que j'ai quitté chez moi. Il me manque vraiment. C'est là-bas que j'ai grandi. Je ne peux pas mettre croix à ma patrie. J'aime la Guinée. Hein.
Et en même temps, vous êtes conscient que ces 9 ans vous ont transformé. Vous n'êtes plus exactement le même. Il y a des aspects négatifs à ce trajet que vous nous avez un peu raconté, mais il y a aussi des aspects positifs.
Exactement.
Vous écrivez aujourd'hui.
Exactement, j'écris aujourd'hui. Ça m'a changé. Ça m'a aidé à voir la vie autrement. Et puis, le fait aussi que je suis rentré en France ici, ça a ouvert beaucoup mes yeux.
Donc, rentrer ou rester, la question reste ouverte.
Ouais, elle reste ouverte. Moi, je préfère rentrer chez moi. Parce que j'ai l'impression de trahir le pays ici, je suis loin. Parce que j'apporte rien au pays en restant en France ici. Hein.
Mais vous vous contredisez, vous nous disiez tout à l'heure tous les bienfaits de l'immigration.
Oui, mais moi, j'aimerais rentrer chez moi un jour. Mais surtout quand il n'y aura pas de troisième mandat et qu'ils organisent des élections, moi, j'aimerais rentrer chez moi.
Donc vous êtes demandeur d'asile et en même temps, vous voulez rentrer chez vous.
Oui, mais là, je ne peux pas parce que je sais si je rentre, je ne peux pas m'abstenir. Et tout récemment, on a organisé une manifestation à la Bastille, ici, contre le troisième mandat. Je fais partie des membres qui ont organisé l'événement. Et 2 jours après que j'ai fait la publication, j'ai reçu des messages de la présidence qui me dit, franchement, vous échouez dans ce que vous faites.
Vous ?
C'est-à-dire un échec total quoi, pour nous, dans ce qu'on fait. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura un troisième mandat. Et quoi qu'on fasse, le mec il restera, il demeurera sous le pouvoir.
Donc il y a un bras de fer qui se met en place finalement. Vous allez finir homme politique, Ousmane?
Ouais, peut-être un jour. En tout cas, moi, j'aimerais un jour me lancer, pas totalement dans la politique, mais m'approcher.
Alors il y a peu, vous étiez simplement un Africain parmi tant d'autres sur le continent. Mais aujourd'hui, vous rejoignez un petit peu la famille des héros négros. J'emploie ce terme parce que je pense à votre texte « Étiquette d'un négro ».
Un négro qui vient de loin, ouais.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ce mot, négro ?
Négro, pour moi, quand il me dit directement négro, je sais à quoi tu penses. Déjà, j'ai vécu dans des pays où, dès que je vois ton visage, je sens directement ce que tu penses de moi, vis-à-vis de ma couleur. Donc, j'ai vécu des trucs comme ça trop, surtout au Maroc. Donc, quand il m'appelle négro, je te regarde. Je regarde ton visage, je sais, la façon dont il a dit, si c'est choquant ou si tu veux juste le dire par courtoisie. Parce qu'il y a des, entre amis, il y a des blancs entre nous, on se dit, ah, négro, ça dit quoi, des trucs comme ça. Ça marche. Mais toi, je ne te connais pas, tu m'appelles négro, ça va me vexer.
D'où l'écriture.
Ouais. Je ne peux plus me taire face à l'amertume, j'ai plus de peur. Passe-moi une plume, une feuille. Je manque d'encre, alors je me trace les veines, j'utilise mon sang pour écrire mes vers. Bien merci, je parle la langue de Molière. Négrophobe dans mes manières, je suis sans carrière. Parole d'or, voilà toutes mes colères. Je commence par toi, toi qui es parti le premier. Toi qui es parti prendre nos braves guerriers. Toi qui es parti avec de gros navires, t'as tout pris, ça t'a pas suffi, t'as tout pillé. Toi qui es parti avec des canons, tu nous as sciés, tu nous as massacrés. Bref, je laisse tomber. Maintenant, je m'adresse à mes frères négros qui gouvernent nos terres. Soyez pas comme des taureaux. Si vous plus le berger, tracez vos routes. Soyez pas les derniers. N'attendez pas le Père Noël. Il n'existe pas chez nous. On a beau être au bout du rouleau, mais encore zéro. Encore un double zéro. Laisse-moi respirer. Laisse-moi te dire que je déteste l'exil. Avec cette étiquette, un chien vaut mieux que moi. Je suis pas respecté. À chaque matin que je me réveille, je me rébelle. Je m'appuie sur mon réveil jusqu'au lever du soleil. Parole d'or sur une feuille en or, tu pourras mieux lire mes écritures même dans les ombres. Étiquette des négros qui vient de loin, exilé depuis l'époque des premières cicatrices. Longtemps j'ai été sans papier, longtemps j'ai squatté le hall du quartier. Diplômé bac plus 4, mais ailleurs obligé d'être cordonnier. Fils de cordonnier, je relis mon bracelet à mon collier. Je sais que je suis pas aimé ici, non je suis pas aimé ici. Alors j'ai fait un valet, je me barre d'ici. Je peux pas t'aimer non plus parce que tu me prends pour un bandit. Souris-moi, même que tu me vois bien dans ta patrie. Même que je suis venu par le navire. Même que ma couleur est un défaut dans ton œil qui chavire. Arrêt cardiaque, choqué par le racisme. J'écris avec une colère pleine de ratures. Ça vient d'une armure.
La vie est belle. La vie est belle. Seul dans ma chambre. Un jour normal, j'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. Je lis entre les lignes et je comprends qu'on veut me kill. Donc je ferme la serrure pour être un peu plus tranquille. Dehors c'est la guerre et je crois qu'elle vient vers moi. Malgré les manifs, qui vivra la verra. Je mets des sacs de sable dans mon salon. Des salauds veulent me shooter comme au foot. Le stopper veut shooter le ballon. À la télé j'entends que je suis le pire des mecs. Non violent, violent, la propagande est impec. Je flippe des troupes spéciales des BI-52. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Pas coupable, on me guide par satellite pour faire un travail impeccable. Toutes les technologies sont mises à mon service dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace. Puis dans un porte-avions et fais ce qu'on me demande. Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre. Je suis un oiseau sans ailes, suppositoire de fer. 500 km à faire et puis pour lui c'est l'enfer. Ça y est, je suis parti, je vole vers son domicile. Et je préserve la paix en commettant des homicides. Je perce les nuages verts, la psy c'est l'ordonnée. Objectif mémorisé, je connais les coordonnées. Je suis de fer, lui de chair, vive à l'improviste. Vole au-dessus de manif, de ces millions de passes. Au nom du Père et du Saint-Esprit, de l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. C'est pas mon convive. On bombarde ma vie, mon quartier, mon bâtiment. Ce soir tu vas mourir, tel est mon ressentiment. Tranquille, je range ma chambre puis je vois les photos de moi-même, de mon ex, vacances au Colorado. Des bivouacs comme Antonia avec nos deux sacs à dos. Là-haut, donner des discours avec tous ces ados. Vois mon père et puis ma mère sur des clichés noirs et blancs. Moi qui les trouvais d'autres, je fais la même à mes enfants. Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les moutons. Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l'explosion. On a tué ma famille sans même la connaître. Moi, ma femme et mes enfants sans m'ajouter au père. Des missiles, kills, dans le civil kill. Des enfants dociles, le monde est hostile. J'ai rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait. Ils parlaient de bienfaits, mais je ne vois que des méfaits. Non, ce n'est pas du racet, crever la fesse. S'ils sont absents, c'est grâce à vos excès. J'appelle les synagogues, les mosquées militantes, églises et chapelles, militants, militants. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
MC Solar, la vie est belle. Merci Ousmane Doumbouya pour cette belle visite en sol majeur. Et puis bon vent dans notre douce France et on embrasse la Guinée.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
En sol majeur, en podcast, sur notre application Pure Radio et derrière votre poste, c'est ce qu'on préfère quand même, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec Monsieur Fawaz Becker. À la semaine prochaine. Musique.